100% d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Boris Johnson is duly elected.
Thank you, Mr. Acting Returning Officer. Good morning, everybody. Good morning, ladies and gentlemen. This One Nation Conservative government has been given a powerful new mandate. To get Brexit done.
Bonjour à tous. Les Britanniques ont donc tranché, confirmé qu'ils voulaient le Brexit ou du moins que le résultat du référendum de 2016 devait enfin être honoré après 3 ans et demi d'atermoiement. Get Brexit done, réalisons le Brexit. Cette phrase, martelée pendant toute la campagne des élections générales, est la grande gagnante de ces législatives anticipées. Gagnant aussi le camp conservateur de Boris Johnson avec une victoire historique, plus que la majorité absolue à la Chambre des communes, du jamais vu depuis 1987. Bonjour Marie Billon.
Bonjour Léa-Lisa.
Vous êtes notre correspondante à Londres. Comment expliquer ce raz-de-marée conservateur? Est-ce à dire que tout le monde est devenu pro-Brexit?
Non, alors j'ai parlé à plusieurs europhiles ce matin et croyez-moi, ils sont loin d'être de bonne humeur. Ça va de « c'est la fin du monde », j'ai vraiment entendu ça, à « je ne reconnais pas mon pays ». Et puis il y a ceux qui sont dans le déni, hein, ceux qui se disent que Boris Johnson n'y arrivera pas ou qu'en vérité il ne veut pas vraiment le Brexit. Mais c'est vrai que la majorité de ceux qui ont voté contre la sortie de l'Union européenne en 2016 semblent s'être fait une raison. Hein. Le verdict des urnes est clair cette fois-ci, m'a dit l'un d'entre eux. Ça n'était pas le cas du référendum, mais maintenant plus de doute puisque le Brexit doit avoir lieu. Eh bien, autant qu'il arrive vite. Et c'est effectivement le calcul qu'ont fait beaucoup de pro-européens en se rendant aux urnes ce jeudi. Certains étaient résignés, d'autres pensaient sincèrement tout simplement qu'il fallait respecter la décision de 2016. Mais il y a aussi un autre facteur. L'offre pro-européenne n'était pas convaincante. Les libéraux-démocrates au centre ont voulu être un peu plus clairs. Hein. Ils voulaient tout simplement annuler le Brexit sans autre consultation. Le parti travailliste voulait ne déplaire ni aux pro ni aux anti-Brexit et a donc tenu une position floue sur l'Europe avec un second référendum à la clé. Ces deux positions n'ont pas trouvé grâce auprès des europhiles.
Alors l'autre surprise de ce scrutin, c'est l'effondrement du parti travailliste de Jeremy Corbyn.
Oui, alors il y a cette question de personnalité qui est très importante, qui a joué beaucoup dans ce scrutin, accusé de racisme, d'antisémitisme, d'être proche des milieux terroristes irlandais notamment. Jeremy Corbyn était devenu une personnalité toxique. Certains europhiles qui auraient bien aimé voter travailliste et pour un second référendum ne se sentaient tout simplement pas de voter pour Jeremy Corbyn. Mais la personnalité n'explique pas tout. Hein. On l'a dit sur le Brexit, en voulant plaire à tout le monde, pro et anti-Brexit, le Labour n'a séduit personne et surtout le parti a réussi à s'aliéner sa base historique au Pays de Galles et dans le fameux Red Wall, le mur rouge du nord de l'Angleterre. Certaines circonscriptions n'avaient jamais voté à droite ou alors pas depuis près de 100 ans, mais elles ont voté pour le Brexit en 2016. Alors cette semaine, les électeurs ont voulu glisser un bulletin dans l'urne pour confirmer leur volonté de sortir de l'UE. Et puis tant pis si pour certains, ça voulait dire voter conservateur.
Il y a aussi ce dernier renseignement de ce scrutin, Marie. 48 des 59 sièges réservés à l'Écosse ont été emportés par le parti indépendantiste écossais.
Ah oui, c'est un raz-de-marée auquel on ne s'attendait pas. Hein. Là encore, c'est le Brexit qui a tout fait basculer. L'Écosse a voté à 62% pour rester dans l'Union européenne en 2016. Et le SNP veut une Écosse indépendante pour pouvoir redevenir ou rester membre de l'UE, eh bien c'est un argument qui finalement a énormément séduit les Écossais qui ont l'impression que Bruxelles prend mieux soin d'eux que Westminster. Le SNP a donc 48 sièges, sa dignité est sauve, mais son parti en Écosse, lui, a pris un bon coup de froid.
Merci Marie Billon pour ces explications. Un quasi raz-de-marée conservateur et pro-Brexit en Angleterre, une vague jaune du parti indépendantiste très opposé au Brexit en Écosse. Les résultats de ces élections révèlent un Royaume-Uni divisé, voire déchiré autour de cette sortie de l'Europe. Que se passe-t-il dans la tête des Anglais? C'est justement la question que pose le Courrier international de cette semaine. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Léa-Lisa.
L'un des articles que vous publiez s'interroge justement sur l'avenir de l'Angleterre, une nation en pleine crise d'identité selon l'hebdomadaire de gauche New Statesman.
Et oui, l'Angleterre, c'est une une nation difficile à comprendre, à tel point que les Anglais eux-mêmes ne la comprennent pas, assure l'hebdomadaire britannique New Statesman. De plus en plus sur deux, les nationalistes écossais, qui ont d'ailleurs remporté 48 des 59 sièges en jeu en Écosse hier, et les nationalistes gallois s'affirment de plus en plus, ce qui pousse les Anglais à reconsidérer qui ils sont et ce qu'ils veulent. Et dans cette crise d'identité, le Brexit pèse lourd. Pour rappel, les Anglais ont voté à 53,5% pour sortir de l'Union européenne lors du référendum de 2016. Et ce choix, il s'est reflété aussi pendant les élections d'hier. Plusieurs bastions travaillistes du nord de l'Angleterre ont opté pour les conservateurs qui ont promis tout au long de la campagne de mettre en œuvre le Brexit au plus vite.
Alors quel impact ce vote a-t-il sur l'identité des Anglais ?
Eh bien, en 2016, le vote pour le Brexit était un vote de colère, analyse le New Statesman, et il a révélé au grand jour les tensions sociales, économiques et politiques qui hantent l'imaginaire anglais. Dans tout le pays, les Anglais ont été de plus en plus nombreux à se dire qu'ils étaient privés d'influence et de véritables pouvoirs démocratiques, contrairement aux Écossais, aux Nord-Irlandais et aux Gallois, donc qui disposent de leur propre parlement local. Le problème, c'est que la question de l'identité nationale suscite l'angoisse dans les rangs de l'élite britannique. La droite est obsédé par le désir d'exalter un passé glorieux et pour la gauche, le passé impérial de la Grande-Bretagne, au contraire, est une source de colère et de honte. Mais c'est là que le Brexit est peut-être une chance pour les Anglais. Il peut les obliger à admettre qu'ils ont besoin de nouveaux mythes nationaux, selon le New Statesman, mais aussi qu'ils doivent adopter un regard critique sur ceux du passé. Espérons, conclut l'hebdomadaire londonien, que de ces temps troublés que traverse le pays puisse émerger une culture anglaise plus sûre d'elle et apaisée, fière des identités multiples d'une nouvelle génération.
Alors, autre grand sujet cette semaine, ce sont les grèves contre la réforme de la retraite en France. Pour nombre de journaux étrangers, l'identité française, elle se caractérise par ces grèves pour défendre les acquis sociaux.
Absolument, Léa Lisa. Et celui qui va pâtir le plus de ce mouvement anti-réforme des retraites, c'est le président de la République, selon la Süddeutsche Zeitung. En fait, Emmanuel Macron a déjà perdu quoi qu'il arrive, selon le journal allemand. Et pour preuve, la grande déclaration d'Édouard Philippe mercredi, celle qui devait permettre au gouvernement français de rallier la population à la réforme, eh bien, elle a encore renforcé l'opposition au projet. Même les syndicats modérés, comme la CFDT, ont rejoint la résistance, relève le quotidien de gauche. À partir de maintenant, le président ne pourra plus imposer son projet ambitieux sans y laisser des plumes. À la place, il devra décider entre deux mots, soit faire voter la réforme par le Parlement, sans tenir compte des syndicats modérés et alors apparaître comme celui qui dévise un pays déjà déchiré, soit renoncer à l'allongement du temps de travail, comme l'exécutif l'a annoncé mercredi, édulcorer la réforme et peut-être alors sacrifier son Premier ministre. Mais dans ce deuxième cas de figure, Macron perdrait alors son bien le plus précieux, son image politique de réformateur intrépide. Et c'est risqué, notamment auprès de sa base, affirme la Süddeutsche Zeitung. Certes, ses électeurs ne font pas grève actuellement, mais ce sont eux qui décideront si Macron restera président en 2022.
Merci Sacha Mitchell. Ces articles et bien d'autres sont à retrouver dans le Courrier international de cette semaine qui a pour titre « Dans la tête des Anglais ».
Merci Léa Lisa.
Mon européenne, c'est pas la Bruxelles, mon européenne, c'est pas Genève.
Le désamour britannique de l'Europe est-il l'arbre qui cache la forêt ? En France, en 2016, 38% des Français seulement se disaient favorables à l'Union européenne contre 55% un an auparavant. Face au désintérêt grandissant des citoyens par rapport au projet européen, l'école a-t-elle un rôle à jouer ? Myriam Bell a poussé les portes du lycée Saint-Vincent de Soigny en Belgique et posé la question à des terminales et leurs professeurs d'histoire.
Fabien Capiot est professeur de géographie. Il dit « l'Europe, on en parle bien à l'école, en géo et en histoire ». En Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est au programme de dernière année.
Le programme, clairement, ne définit peut-être pas assez la place que nous devrions donner à l'espace européen.
Fabien Capiot tire sur le programme scolaire pour faire rentrer le plus d'Europe possible. Cette année encore, il s'apprête à transmettre à des ados, nés tous après l'arrivée de l'euro en 2001, un peu de l'élan des fondateurs de l'Union.
Dans un climat politique, la montée des nationalismes, la difficulté de former un pouvoir au niveau fédéral, ici, on a la chance, par le fait de parler des repères européens, de montrer que cette construction, petit à petit, ça a été une superbe idée au départ. Qui commence à 6, puis il y a 9, et puis il y a 12. Et c'est cet enthousiasme qu'il y avait à l'époque. Et ça, je trouve, c'est fabuleux au niveau historique.
17 ans, 18 ans, les élèves placent leurs chaises en cercle et le mot « Europe » y est lâché.
On ne sait pas spécialement quels sont les dossiers que l'Europe traite. Moi, le climat, oui, et puis... La paix.
On a une vision globale de l'Europe sans vraiment avoir une vision de la politique européenne.
Dès qu'on sera majeur, bah, du coup, il faudra voter. Du coup, si on vote pour quelque chose qu'on ne sait pas, bah, c'est un peu débile.
Et est-ce que vous vous sentez européen ?
Moi, j'ai l'impression que oui, parce que je ne suis pas née en Belgique et mes parents ne sont pas belges non plus. Donc, voilà, et pourtant, j'habite ici. Donc, j'ai un peu vu des cultures de partout. Et donc, je me sens pas belge, pas polonaise, mais j'ai l'impression que je connais un peu tout.
Face à elle, une adolescente d'origine albanaise, l'Albanie qui frappe à la porte de l'Union. Pour être née en Belgique, cette élève se sent-elle européenne ?
Européenne, oui, mais c'est pas la première chose que je dirais en me présentant.
C'est dommage ou pas ?
Bah, je pense, parce que l'Europe a plein d'avantages. Oui, je pense que c'est dommage. On devrait plus appuyer le fait d'être européen et tout ce que l'Europe peut apporter à chacun de nous.
L'un suggère un court mode d'emploi. Une autre, des conversations en langue étrangère, en réseau avec une autre classe d'Europe. Et pourquoi pas plus d'histoire européenne ? Tiens, existe-t-il, à leurs yeux, une histoire commune, transversale, avant les deux guerres mondiales ? Il y a des accords.
Non. L'Union européenne n'était pas là pour la Première Guerre mondiale. Donc du coup, avant, les Européens, ça n'existait pas.
Je pense oui, parce que ce soit l'Albanie ou la Belgique, elle a été donc rythmée par plus ou moins les mêmes événements. Donc oui, mais après, il y a des grandes périodes essentielles. Par exemple, en Albanie, il y a eu une guerre. En Belgique, par exemple, moi, je suis sûre, la plupart de mes amis ne sont pas au courant. Tandis que c'est quelque chose qui a vraiment marqué l'Albanie.
Chaque pays a sa culture, a son histoire. Et chaque pays a une histoire plus longue, plus ancienne que celle de l'Europe.
Mais du coup, ça veut dire qu'on devrait parler plus de l'Europe dans les cours.
On y revient. Fabien Capio adorerait élargir son cours. Mais pas question, dit-il, de se voir dicter un canon européen, comme il en est question aujourd'hui en Flandre. L'Europe, conclut le professeur, n'est pas imposée un point de vue, mais en confronter et débattre. I'd like to have a
democracy. Et quand on parle d'Europe, on parle de démocratie. Dans le petit village de Saillant, dans la Drôme, les 1240 habitants ont décidé de tester l'expérience de la démocratie participative. Le résultat, un village sans maire et des décisions débattues en commission avec les habitants. L'expérience a démarré après les élections municipales de 2014. 6 ans après, quel bilan ? C'est le reportage d'Alexis Bédu.
Il promettait une mairie ouverte, premier engagement de campagne tenu. On y entre comme dans un moulin. Au premier étage, la salle du conseil et une immense affiche accrochée au mur avec des dates, des photos. C'est la spirale de l'action communale et participative, explique Fernand Karagianis. Il n'est pas conseiller municipal, non. À Saillant, on dit élu référent.
Ici, c'est une spirale. On a souhaité montrer justement que l'ouverture de la mairie à la population créer une dynamique et que ça permettait de non seulement de faire une dynamique, mais d'avancer sur beaucoup de projets. On résume souvent l'action d'une mairie à un bâtiment qui a été construit ou un gros monument qui est construit. Non, l'action d'une mairie, ce n'est pas que ça.
L'histoire débute comme un conte, une légende dans ce village adossé aux pentes du plateau du Vercors. En 2010, une poignée d'habitants s'organise pour lutter contre l'installation d'un supermarché. Le maire de l'époque y est favorable, mais il perd le combat et le projet est abandonné. Les habitants rebelles décident de poursuivre leur collectif et gagnent les élections avec une ambition, donner la parole à tous les villageois sur quasiment tous les sujets. Pour cela, deux instances sont créées, des commissions thématiques et des GAP, groupes action projet, ouverts à tous les habitants.
Ces réunions sont annoncées, il y a un agenda mensuel qui paraît, où toutes les dates sont mises, et c'est ouvert à tout le monde, à tous ceux qui le souhaitent.
Tout est discuté, même un éclairage du point information, c'est discuté en réunion publique, etc.
Ah non, pas tous les dossiers ont été discutés. Ça a été, à un moment donné, ça a été discuté, bien sûr, avec le maximum d'habitants, mais je ne peux pas dire que tous les dossiers, un par un, ont été discutés.
Deux jeudis par mois, l'équipe municipale organise également un comité de pilotage public. Aucun professionnel de la politique dans cette mairie. Les élus ont appris à administrer sur le tas et des réalisations ont vu le jour. Ces deux habitantes de Saillant sont conquises par cette expérience de la démocratie.
Nous, on est ravis.
Il y a eu des nouveaux arrivés.
C'est ça.
Et des nouveaux arrivants. Et des gens qui sont venus parce qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le village. C'est pas un village mort, c'est pas un village triste, c'est pas un village sans vie. Voilà. Et donc, ça, c'est hyper positif.
C'est un truc qui se construit au fur et à mesure. Voilà, ils ont pas la science infuse non plus, les citoyens, on fait ce qu'on peut avec eux. Et voilà, et puis comme dans tous les villages et partout, il y a un clivage énorme et avec les élections qui approchent. Il y a une liste, d'autres listes qui viennent et c'est très bien,
c'est
tout à fait normal, voilà. C'est tout à fait démocratique. Mais Là, s'il fallait approfondir, on en aurait pour 2 heures, quoi.
2 heures pour raconter toutes les histoires d'un petit village de 1240 habitants en proie à un changement de modèle démocratique. L'ambiance s'est dégradée, des clans se sont créés car certains ne sont pas d'accord avec la nouvelle équipe municipale. Ils ont d'ailleurs décidé de monter une autre liste pour les prochaines élections.
C'est l'entrée des artistes. Allez, on peut faire.
Ouais, j'ai dit que je me présentais aux élections, moi.
T'as raison, poupée.
Ils veulent encore les plus de 80 ans.
Et il reproche à l'équipe en place un manque de démocratie. Marie-Christine Casal se résume, ils ont l'impression de ne pas avoir été écoutés sur les gros projets de la mandature.
La promesse était tous décideurs et le constat en fin de mandature, c'est de se dire que sur les projets majeurs et structurants de la commune, les décisions sont restées entre les mains des élus. Donc le partage politique du travail a été très traditionnel en fin de compte. Nous avons recensé effectivement 32 groupes d'action-projets entre 2014 et 2019, mais ce sont des groupes d'action-projets qui portent sur des sujets très mineurs tels que les fleurissements, les illuminations de Noël, les couleurs des pots de fleurs, le mobilier urbain. Donc ce sont des projets qui sont certes confiés aux habitants, mais qui sont mineurs et qui sont surtout inoffensifs et qui ne font pas bouger les lignes du partage des décisions politiques.
Des critiques que réfute l'élu Fernand Karagiannis, l'ouverture, la collégialité ne sont pas que des façades. Il aimerait d'ailleurs aller encore plus loin, que la démocratie participative soit inscrite dans les lois.
Il faudrait qu'en termes juridiques, on impose un peu de participation aux communes. 2020 va être marqueur dans ces élections, vous allez voir. Il va y avoir plein de listes citoyennes qui vont émerger. D'autres, sans être toujours des listes citoyennes, tous ces partis qui vont intégrer de plus en plus de la co-construction de projets, de l'ouverture à la participation, même si on sait que des fois c'est un peu éduqueuré tout ça, mais au moins il y a une dynamique qui est en train de se faire.
En France, seulement 130 municipalités ont mis en place un budget participatif, mais les élus de Saillant en sont convaincus. L'image du maire paternaliste qui décide de tout dans sa commune appartient désormais au passé.
Ladies and gentlemen, this next record needs no introduction.
C'est vendredi et l'heure de retrouver Vincent Théval et son coup de cœur musical. Bonjour Vincent.
Bonjour Léa Lisa, bonjour à tous.
Aujourd'hui, élection en Grande-Bretagne oblige, vous nous parlez du groupe anglais Diagrams et leur nouvel album Is This Real?
Une rencontre plutôt surprenante aujourd'hui qui a donné naissance au nouveau single de Diagrams. Une rencontre entre le fondateur de Diagrams, l'auteur-compositeur anglais Sam Genders, et les prénommés Alicia et Mabel. Alors des collaborations, Sam Genders en a initié beaucoup depuis le début de sa carrière il y a 20 ans, mais celle-ci a quelque chose de très particulier, puisque Alicia et Mabel ne sont pas des humains, comme vous et moi, ce sont des intelligences artificielles. C'est après avoir lu un article dans le New Scientist magazine que Sam Genders contacte la chercheuse américaine Maya Ackerman, qui développe ces deux programmes et qui accepte de lui donner accès à ses logiciels en échange d'un retour sur leurs capacités respectives. Alicia se charge des mélodies, tandis que Mabel est conçue pour écrire des paroles. Débute alors un ping-pong créatif entre les trois auteurs-compositeurs qui mettent en commun leur sensibilité, leur talent et leur ligne de code pour une chanson très réussie, Is This Real?
The gentle click of morning, the hum of sunlight washes over me in binary. The air is thick with yearning for something concrete, something I can feel. Is this real? Is this real? Is this real? I sense you in my body, in my solar system. Waves of light and physicality. A line of fear and laughter, something I can feel, calling itself me.
On se quitte en musique avec Diagrams. Françoise Grelot était à la réalisation d'Accent d'Europe aujourd'hui. À lundi.
Is this real? Is this real? Is this real?